19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est beau micro, on va passer une heure ensemble, on va parler de super-héros, on va parler de toutes petites choses, on va parler de monstres, on va parler encore de super-héros, un peu de bouffe et on va aussi parler de Simon Verniol. Allez, attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Il n'est pas fait de moi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau, dans vos oreilles, parce que vous en avez deux, les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Fabien. Ça va Fabien ? C'est pas le bon micro que j'ai mis, pardon.
Ah ça va voilà.
Là oui. C'est mieux.
Eh ben écoute, ça va bien, impeccable.
Ça va Florence ?
Ça va très bien, merci.
Super, et je suis également en compagnie de Simon. Ça va Simon ?
Ça va très bien également.
Eh ben parfait. Pour l'instant, on va te laisser de côté le temps de parler d'abord des news, et puis on revient après sur ton actu.
Okay.
Voilà, on sera ensemble tout à l'heure. Florence, est-ce que tu es prête pour ces news ?
Je suis prête.
Alors ces news, c'est pas news. Je tiens quand même à préciser, nos chers auditeurs, que c'est la première fois que Florence a rédigé elle-même ces news. Donc voilà, ça va être hyper pro, hyper carré. Allez, vas-y, c'est quand tu veux.
Alors, avant de parler des futurs événements à venir, je voudrais faire un petit récapitulatif des festivals qui ont eu lieu ce week-end. Se sont déroulées les rencontres Chaland-Anérac, créées en 2008. C'est un festival qui rend hommage à Yves Chaland, dessinateur attaché à la ligne claire, ayant vécu à Anérac. Et il y a eu également la 49e édition du Festival international de la BD à Chambéry. C'est le plus ancien festival de la BD en France et on espère qu'il y aura encore de nombreuses éditions à venir, bien sûr. Pour les futurs événements, on aura le 11 et 12 octobre prochain au Metz-sur-Èvre la 18e édition du festival de la BD engagée organisé par l'association La Bande à Part. Ce festival a pour objectif d'utiliser la BD pour créer des espaces de rencontres et de débats avec un large public et sur des sujets de société divers et variés, mais aussi de promouvoir des jeunes auteurs et autrices. Sur place, vous aurez un débat avec Julien Martinière autour de son album « À la ligne » qui évoque les conditions de travail des intérimaires dans le monde ouvrier. Il y aura aussi des discussions autour de l'arnaque des nouveaux pères, enquête sur une révolution manquée, avec son auteur Stéphane Jourdain. Le 18 octobre prochain, on aura la fête de la BD à Gemont, dans le Nord. Elle se déroulera à la médiathèque rue de la Gare, l'entrée gratuite et on y attend une quarantaine d'auteurs et autrices. Le festival se veut convivial et ouvert à tous les publics, encore une fois. Rencontres et dédicaces avec les artistes seront au rendez-vous et un appel aux dons d'albums est organisé jusqu'au 11 octobre. Donc ces ouvrages seront revendus pendant le festival au profit de l'association SOS Chats Errants. Toujours à la même date, du 18 au 19 octobre prochain, mais pas du tout dans le même secteur en revanche, on aura la 5e édition de Transalpes BD à Bourgoin-Jallieu en Isère. C'est l'association À la page BD en collaboration avec la municipalité qui organise l'événement. 27 artistes seront présents à cette occasion. L'univers des Terres d'Aran à Quillon sera au cœur du festival. On y mettra en avant les nains, les elfes, les mages, orques et gobelins. Et il y aura cette année une exposition autour du personnage Titeuf également. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et elle sera de 3€ pour une journée et 5€ pour les deux jours. Voilà, c'est tout pour l'agenda des événements.
Eh bien, merci Florence, c'était pas mal tout ça. Je voulais ajouter un petit truc dans les actus. On a appris sur les réseaux sociaux le 30 septembre le décès d'Alain Kahn, qui a fondé les éditions Pika. Il était déjà à l'origine des éditions Player One. Enfin, il avait fondé le magazine de jeux vidéo Player One et il avait transité pour créer la maison d'édition telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, à part dire merci pour tout ce que vous avez pu faire pour le manga en France. Voilà.
Donc, oui, en effet, c'était important de le dire. T'as raison.
Ouais, parce que Pika, c'est devenu une maison qui a fait sortir des choses comme Dreamland, un manga français que tout le monde connaît maintenant. On leur doit aussi l'Attaque des Titans, Fairy Tail, Kaguya-sama, Blue Lock, l'Atelier des Sorciers. En fait, il y a plein de super titres manga qui sont chez eux. Et
c'est une des plus grandes maisons d'édition de manga. Hein. Elle fait partie.
C'est clair.
Des plus grandes en France.
Donc voilà, c'est toujours un petit peu tristouille de voir des gens partir, mais bon, à un moment, hein, on n'est pas éternel, hein. Voilà. Sauf Michel Drucker, il paraît. C'est un autre problème.
Il paraît.
Hop, c'est fini pour les actus. On va parler de Simon Verniol. Bonjour Simon.
Salut.
Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es?
Alors, je suis, entre autres...
Alors, parle un tout petit peu plus près de ton micro.
Ok, ça marche.
Voilà, je monte le son. Hein.
Je suis, entre autres, illustrateur, auteur de bande dessinée et musicien.
Multicasquette.
Multicasquette. J'en ai qu'une ce soir, mais en vrai, j'en ai plusieurs.
Alors, il y en aura plusieurs quand même, puisqu'on va quand même parler musique un petit peu, puisqu'on va diffuser aussi un petit peu les morceaux de ton groupe, groupe solo, c'est ça hein?
Ouais, c'est ça, exactement. Un groupe solo.
Est-ce que tu peux nous dire comment t'en es venu à la BD, par exemple? Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que c'est par accident? Est-ce que
accident, hasard, ouais. La BD, c'est un truc que je n'avais jamais imaginé faire.
Ok.
Pour moi, c'était vraiment difficile de dessiner de la BD, alors que je dessinais depuis toujours. Mais dessiner dans des cases, c'était difficile pour moi. Et il y a 5 ans, je suis arrivé dans le coin. J'ai découvert l'atelier Kawa qui est à Mazé-Milon.
Mazé, ouais.
Je suis allé les voir pour leur montrer ce que je faisais comme dessin. Et puis, ils m'ont donné goût à faire de la BD. Et puis, ils m'ont un peu aidé. Ils m'ont pris sous leur aile. Et puis, j'y suis arrivé, quoi. Et puis, depuis, je fais ça.
C'est... Du coup, tu es résident à Mazé maintenant
Juste à côté, ouais, c'est ça.
Juste à côté. Mmh. Et tu fais partie de l'atelier Kawa.
Exactement.
Un atelier où il y a quelques noms qu'on connaît. Enfin, moi, je les connais un peu plus. Tony Emorio, Olivier Supio.
Dominique Enbo,
enfin
Pauline Caster, ouais,
Pauline, il y a plein de gens vraiment sympas avec des talents multiples parce que leurs types de dessins sont tous très différents. Comment ça construit un dessin de travailler dans un atelier? T'es déjà venu avec ton style ou ces gens-là ont pu t'inspirer?
Je suis déjà venu avec mon style, c'est sûr. Là où ça m'a inspiré, c'est que je me suis rendu compte que chacun avait son propre style et qu'il n'y avait pas besoin de faire comme les autres.
C'est clair.
Voilà. C'est dans l'échange aussi, du coup, tu peux montrer à plusieurs personnes dont c'est le métier des trucs que tu es en train de faire où tu hésites un peu, tu es un peu dans le doute. Et ça permet aussi d'avoir des avis francs et d'aller un peu plus vite, du coup, sur la construction d'une BD, je trouve.
Ils vont te donner des conseils, ils vont te dire tiens, ton cadrage, là, il est classe, mais il ne va pas tout à fait fonctionner. Ou des.
Ouais, c'est ça.
Mmh. Ok. Mmh. Tu travailles comment? En numérique, en traditionnel, un peu des deux?
Je travaille principalement en numérique, parce que je trouve ça plus simple et rapide.
Ok.
Et de temps en temps, sur des petits projets, je m'autorise de faire un peu de tradi.
D'accord, ok.
Parce que ça prend du temps quand même. Tout ce qui est scan, etc. aussi, nettoyage des planches, etc. Je trouve que le petit CTRL Z quand même sur ordi, ça, c'est quand même
pratique. Ouais, c'est quand même plus rapide. J'ai pas tout lu, j'ai pas eu le temps de lire toutes tes productions. T'es plutôt orienté vers quel genre? Moi, j'aurais tendance à dire plutôt humour, mais peut-être que toi, tu te définis différemment.
Du coup, petit à petit, je commence un petit peu à mettre un nom là-dessus. Je pense que je suis sur. L'humour, il y a un peu d'humour toujours. Et j'aime bien la BD qui transforme, c'est-à-dire qui amène un peu de réflexion.
Ok.
Et un peu de nouveau point de vue peut-être. Voilà, je dirais ça comme ça.
Ok, BD à réflexion.
Ouais.
Alors, n'hésitez pas, Florence et Fabien, si vous avez des questions à poser à Simon, je suis preneur.
Ça marche.
Moi, j'ai lu. Alors, je suis. J'ai pas dire que je suis tombé amoureux, mais j'ai sur les planches que tu m'avais fait lire. J'ai beaucoup aimé l'histoire du jeune garçon et son grand-père avec les livres. Okay. Moi, j'adore les livres et je trouve qu'elle est porteuse d'ouverture vers plein d'autres choses, cette histoire.
C'est chouette que tu dises ça parce que c'est la première BD que j'ai scénarisée.
C'est vrai.
Alors, j'y suis allé un peu à tâtons. C'était pour un magazine qui s'appelle Furtif.
Ok.
Et qui laissait l'ouverture à différents artistes d'écrire sur un thème qui était les monstres. Et c'était un thème où je n'étais pas du tout à l'aise là-dessus. Et au bout d'un moment, j'ai eu cette idée-là. Mon grand-père, il habitait juste en dessous de chez moi, vraiment. Et il me racontait pas forcément beaucoup d'histoires. Mais j'ai eu envie de raconter ce truc de transmission. De quand tu ouvres un livre, il y a toujours un truc qui sort de ça, quoi. Ça sort de toi, en fait. Et rapidement, j'ai eu cette idée d'histoire. Et puis, ils m'ont dit, vas-y, fonce là-dessus. Donc, je suis content que tu me dises ça parce que c'est une histoire qui, pour moi, est importante, du coup, dans mon parcours, quoi.
Ben, je trouve qu'elle marche bien. Je trouve qu'il y a pas mal d'émotions. Il y a un peu de nostalgie, je trouve, dans cette histoire-là. Et un truc que je trouve intéressant aussi, c'est la façon dont tu travailles le personnage principal d'une manière un peu déformante. Il a des bras qui font des mouvements que moi, j'arrive pas à faire avec les miens. C'est compliqué de jouer aussi avec ça, avec un squelette mouvant.
Alors moi, ce que je trouve plus compliqué, c'est de respecter les règles de l'anatomie. Du coup, j'ai pris ce petit décalage en me disant « ça se verra pas que je sais pas très bien dessiner », en faisant exprès de tirer les traits comme ça, quoi.
En vrai, les dessins marchent très bien, ils suivent. Je me revisualise très bien une image où on le voit descendre dans un escalier et les bras continuent dans le mouvement de l'escalier. Ouais. Ça donne un élan, ça donne quelque chose de presque un petit peu monstrueux sur ce personnage qui pourtant est tout sauf monstre.
Oui, c'est vrai. Et pourtant, la BD apporte des monstres. Du coup, il y avait un peu ce côté entre deux de transformation aussi. Après, il grandit en plus, donc il y a un peu un truc comme ça, les bras trop grands.
C'est plutôt cool à faire. Hein, comme, ça te demande beaucoup de temps en fait, de créer une planche, de travailler justement ces idées-là.
Bah, moi, je m'applique justement à avoir un dessin assez spontané,
okay.
Presque naïf parfois. Du coup, je dessine assez vite. Et j'essaie justement d'aller assez vite sur le... En fait, moi, j'aime bien créer des histoires. Tout ce temps-là, je le trouve super pour imaginer des trucs. Et le temps de dessiner, bizarrement, c'est le temps où je suis le moins à l'aise. Et du coup, j'ai envie que ça aille le plus vite possible.
Tu serais... tu fais dessin et scénario dans quasiment tous tes projets.
À part d'enveloppe. Ou du coup, c'est mon premier projet, du coup, et c'est un scénariste qui m'a proposé de faire ça, quoi.
Ok. Et est-ce que, parce que moi, dans ce que j'entends, c'est que tu serais peut-être même plus à l'aise à scénariser des choses pour d'autres personnes, ou il faut que ce soit ton dessin qui se pose dessus?
Alors, j'ai jamais fait de scénario pour d'autres personnes. Peut-être que je me dirige tout doucement. Va savoir, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien. Je pense que ça va un peu les deux ensemble, quand même. J'aime bien dessiner aussi, quand même. Même si c'est pas forcément l'endroit où. Quand je dis que je suis moins à l'aise, c'est parce que j'aime bien que ça aille vite, quoi.
Ok.
Je trouve que ça prend beaucoup de temps, c'est laborieux.
Si c'est pas toi qui le fais, ça ira beaucoup plus vite.
Oui, c'est vrai.
T'es plutôt un jeune auteur, si on peut dire ça. T'as commencé en 2020. Non, pardon. Mince, j'avais ton CV sous les
yeux. En 2021, dans la BD.
C'est
et
ça.
Et en 2019, je me suis mis à mon compte en illustration.
Ok, donc oui, tu manies quand même le crayon depuis un petit moment.
Un petit moment, oui.
Aujourd'hui, tu as des projets au sein de la Bulle, enfin de l'atelier Kewa, pardon. La Bulle, c'est la bibliothèque qui est pas très loin et qui est une grosse référence. Et puis, il y a un travail collectif hein, entre Kewa et la Bulle, de toute façon.
Ouais, du coup, on en reparlera de ça. Ouais.
T'as des projets justement chez Kewa ou même en dehors dont tu peux parler ou
Oui, tout à fait. En ce moment, j'écris un projet avec ma compagne.
Ok.
Qui à la base devait parler du couple. On s'était mis en lien avec une association qui parle du couple, qui fait des cercles de discussion autour de ça.
Ok.
Et aussi autour de la vie et des traumatismes qu'on peut vivre dans la vie. Et ils ont une méthode un peu pour surmonter tout ça par le corps, par l'écoute du corps. Et on a fait un stage du coup là-bas en couple avec ma compagne. On s'était dit il faut qu'on raconte ça, c'est trop bien. Et puis après on a fait un stage individuel et on a dit ah en fait faut qu'on raconte le truc individuel, c'est trop bien.
Il faut raconter tout en fait.
Et ben du coup on va un peu parler des deux. Mais la part individuelle prend un peu plus de place parce que le couple c'est quand même un endroit où quand on y va en couple on a un peu notre on est à deux quoi. On n'est pas tout seul et du coup ça va un peu moins loin dans le dans le fait de creuser les traumas.
Dans l'exploration.
L'exploration. Voilà. Donc, okay. C'est une BD un peu dev perso ou dev relationnel, je préfère dire relationnel, de relation à soi et de relation aux autres, du coup.
Ça, c'est cool.
Voilà.
Et ta compagne est déjà dans le milieu de la bande dessinée? Pas du tout.
Moi, je l'ai prise par la main, je lui ai dit, tu viens avec moi.
Ok. Le saut dans le vide, quoi.
Ouais, c'est ça. Elle est très contente.
On lui fait un petit coucou.
Clara.
D'ailleurs, si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions pour Simon. On les transmettra pour qu'il puisse y répondre. Donc, tu travailles à l'atelier Kawa. Il y a des passerelles qui se font avec la bulle de Mazet. Mm-hmm. Quelles sont-elles?
Alors, du coup, la bulle, c'est un pôle ressources BD.
Ouais.
Et il propose plusieurs projets de médiation autour de la bande dessinée, comme des ateliers, par exemple, qui sont menés par Kawa au sein de la bulle, et aussi des ateliers plastiques. Moi, j'ai fait déjà un atelier de linogravure là-bas. Il propose différents ateliers autour de...
Rappelle la linogravure pour les auditeurs.
Du coup, c'est le fait de graver une plaque qui est en linoléum, comme le sol, ensuite d'appliquer de la peinture dessus, et ça ne garde que ce qui n'a pas été gravé.
On va faire plusieurs couches pour avoir différents niveaux de couleurs, c'est ça?
On peut faire ça, on peut faire juste une couleur.
Juste une couleur. Ouais.
Donc ils proposent différents ateliers comme ça autour du dessin et des arts plastiques en général.
Et donc, du coup, toi, tu vas en animer là-bas? Tu en as déjà animé?
J'en ai déjà animé là-bas.
Ok.
Et là, du coup, ce vendredi... Je peux parler de ça, du coup?
Ah bah oui, mais bien sûr.
Et du coup, ce vendredi...
T'es là pour faire le plus de promos possible. Hein.
Ce vendredi, du coup, il y a une soirée BD et musique.
Ok.
Les gens de la bulle, Julien et Coralie, sont venus vers moi en me disant « On aimerait bien que tu parles un petit peu de ton parcours, parce que t'es les deux casquettes, BD et musique. Donc si tu peux parler de tes influences en BD et en musique, et aussi parler de ce que tu fais toi comme projet, ça pourrait être chouette. » Bon, je dis « Oui, carrément. » Du coup, ce vendredi, à 20h, à la médiathèque de la bulle, c'est une soirée gratuite et ouverte à tout le monde. Du coup, je parlerai pendant une heure et demie. Pendant une heure, je parle de mon parcours et de mes influences. Du coup, il y aura de la musique, on va écouter de la musique, on va regarder des vidéos, on va regarder plein de dessinateurs. Et je vous ferai aussi un petit concert à la fin de 20 minutes.
Ok. Ouais, tu fais pas les deux en même temps, dédicace et concert? Non, c'est trop compliqué.
C'est un peu compliqué, ouais.
Tu pratiques quoi comme instrument?
Je fais de la guitare.
Les guitares, ouais, donc effectivement, les mains sont prises, ça va être compliqué.
Je pourrais dessiner avec la bouche.
Avec les pieds ou avec la bouche, ouais, y a un challenge à faire. Du coup, tu parlais de tes influences. Alors, on va pas forcément avoir une heure, nous, à te consacrer là ce soir, mais justement, tes inspirations BD et musicales, alors c'est des talents qui, des fois, se conjuguent, parce qu'on a vu des dessinateurs, je pense par exemple à Zeb qui avait fait un album pour Jean-Jacques Goldman, Maliki qui a fait un album pour Mes souliers sont rouges. C'est des passerelles qu'on retrouve beaucoup, BD et musique. Toi, c'est des passerelles que tu intègres en toi, parce que tu fais de la BD et de la musique, mais est-ce que t'as aussi d'autres sources extérieures?
Et ben du coup,
question trop compliquée. Je peux résumer.
Pour lier les deux, c'est ça que tu veux dire?
Ouais.
Comment je lis les deux, moi?
Comment toi tu lis les deux, et puis quelles sont les inspirations que tu as justement musicalement et graphiquement?
Ok. Il y a assez longtemps, je lisais beaucoup de Sfar.
Ok.
Et il faisait des petites BD qui racontaient un peu comment il se mettait à l'harmonica, qui jouait dans sa voiture et tout ça, qui se faisait arrêter par les flics avec son harmonica à la bouche au volant. Je trouvais ça assez marrant de voir. Je sais qu'il fait un peu de musique aussi. Donc je trouve ça assez marrant de voir la musique là-dedans. Peut-être c'était un peu ce qui a un peu mis le pied à l'étrier, Sfar. Alors après, j'ai
une bonne base, hein, Sfar.
Ouais, une bonne base, ouais. Après, en influence BD, il y a Blin aussi qui m'a beaucoup marqué. Je trouve qu'il justement il a un trait un peu comme ça, qui est très chouette et aussi naïf parfois, très très jeté comme ça, avec des déformations, des gros nez, des trucs qui sortent de l'ordinaire que j'aime bien. Je trouve même ça dans la rythmique, comment il raconte les histoires, il y a presque un truc musical. On imagine déjà de la musique d'Angus, par exemple, pour imaginer de la musique de Cowboy derrière.
Complètement.
Avec des différentes couleurs aussi qui changent. Et dans la manière dont tu mets ces couleurs, il y a aussi un truc très musical, très, très ambiance, quoi. Donc voilà ce que je peux dire sur mes influences BD. Et sur la musique, il y a aussi un truc... j'ai écouté beaucoup de musique qui raconte des histoires au début. Et plus ça va, moins j'en écoute. Parce que je trouve qu'en fait, on arrive encore mieux à raconter des choses quand c'est pas direct, quand c'est plus des images qui sont formées par les mots.
Ok.
J'écoute beaucoup de musique québécoise, du carquois, Mes souliers sont rouges aussi, par exemple. Tous les trucs comme ça m'inspire beaucoup.
Cowboy fringant,
ouais. Je trouve qu'ils ont une manière de raconter et d'utiliser les mots qui sont un peu différents, une manière un peu différente de la nôtre. Et du coup, ça amène un peu ailleurs. Et j'adore ça, je trouve ça vraiment chouette à écouter, quoi.
Et j'avoue que je partage, c'est, enfin, je sais pas si mes collaborateurs écoutent de la musique québécoise, mais ils ont une manière d'imager qui est très très forte en fait et qui marche très très bien. Donc ouais, ah, c'est cool. Je te propose du coup qu'on fasse une pause musicale et après, si ça te tente, on parlera ensemble d'une BD qui parle de musique. Je tease.
Très bien, on voit ça après.
Tu préfères qu'on écoute quoi dans un premier temps? Tu m'as proposé deux chansons de ton répertoire, puisque du coup, c'est toi tout seul. Ça s'appelle Cher Hubert. C'est qui Hubert d'ailleurs? Non, c'est trop compliqué.
Si, on peut le dire. En fait, je cherchais un nom. Je venais juste de quitter un groupe dans lequel j'avais joué pendant 7 ans, qui s'appelait Les Bottes et la Plume. Et okay. Je voulais pas juste faire un truc en mon nom, je trouvais ça un peu dommage. Et j'avais envie que ça devienne aussi un groupe peut-être plus tard, ce que c'est devenu pendant quelques années, mais là maintenant c'est tout seul. Et du coup, ce truc Hubert, je cherchais un prénom et je savais pas trop quoi donner comme prénom. Et j'ai regardé plusieurs films à la suite, un peu comme ça, en les ouvrant, en faisant bouger la barre un peu de la timeline comme ça. Et je suis tombé un moment sur Cher Hubert.
Okay.
C'est nickel, c'était un film de Xavier Dolan.
Bon, écoute, voilà, parfait. Du coup, tu m'as proposé Allumette et quoi encore? Qu'est-ce que tu veux écouter pour l'instant?
Eh ben, on va écouter quoi encore? Et je chante avec Clara dessus, ma compagne. Parce que du coup, parfois, Cher Hubert devient un groupe.
Eh ben, parfait. On écoute quoi encore sur le 100.5 de Radio G? On se retrouve tout de suite après.
Qu'est-ce que j'ai dit encore que je n'aurais pas dû dire? J'aurais dû réfléchir.
Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore que je pourrais regretter? Rien que d'y penser.
Mais moi je suis comme ça. C'est dans ma nature. Je ne changerai pas en aucune mesure. Tu t'habitueras à moi. Je m'habituerai à toi. Avec le temps tu verras, on s'apprivoisera.
Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai vu encore que je ne voulais pas voir? Le reflet du miroir.
Et quoi encore? Qu'est-ce que t'as dit encore que je n'ai pas retenu? Je ne me souviens plus. Mais moi je suis comme ça. C'est dans ma nature. Je ne changerai pas en aucune mesure. Et tu t'habitueras à moi. Je m'habituerai à toi. Avec le temps tu verras, on s'apprivoisera. Tu t'habitueras à moi. Je m'habituerai à toi. Avec le temps tu verras, on s'apprivoisera. Chacun fait un pas. Sur soi, mais au bout
Radio G, 101.5 FM.
Vous êtes de retour dans la case de Seb. On vient d'écouter Cher Hubert avec le morceau « Quoi encore ?» un morceau de Simon Vergniol et Clara Stoltz.
Stoltz, c'est ça.
Parfait. Je suis trop bien. Je ne m'entends plus dans mon casque. C'est pas... Vous m'entendez bien, vous, chers auditeurs, j'imagine. Super. Bon, top. J'ai un petit problème de connectique. Bref, c'est pas grave. On va faire comme ça. Je sais que je parle et je me vois. Donc, on parlait d'une soirée vendredi à la Bulle de Mazet où tu vas parler de tes différentes influences. Les gens pourront écouter du Cher Hubert ou autre chose après le...
Du coup, l'idée, c'est de parler aussi de mes influences musicales. Donc, du coup, il y aura aussi d'autres artistes que je vais évoquer, notamment les artistes québécois dont je te parlais.
Ouais.
Mais aussi des artistes de rock. J'aime beaucoup le rock aussi.
Ok.
Des Foo Fighters, des trucs de Bob Dylan, par exemple. Des chansons de
trop bien.
Même du Sense, pas cool. Parce que mes premières influences, c'est du rap.
Ah, yes. Oui, voilà, un melting pot d'influence qui...
C'est ça, donc c'est un peu pour traverser tout ça, différentes époques aussi, donc ça va être bien chouette. Et ça, du coup, Cher Hubert, il jouera un petit concert à la fin.
Ok. Est-ce que tu peux nous parler du coup maintenant des projets à venir? Quels sont les projets en cours, plus ou moins long terme, mais dont tu as le droit de parler? Parce que je sais que des fois, les éditeurs te disent « tu parles pas de ça
». Alors, ils m'ont pas dit ça, donc je vais du coup pouvoir en parler.
Parfait.
C'est aux éditions Rêverie. Je suis en train de dessiner un album jeunesse qui parle des émotions.
Ok.
C'est juste un album sans texte, à part les émotions. Une émotion par page. Et c'est un petit personnage qui se promène et qui vit plein de choses. Et du coup, à chaque fois, il y a une émotion.
À destination des plus jeunes, j'imagine.
Ouais, ça, c'est du 3 ans, 3-6 ans, quoi.
Ok. C'est un lectorat que t'avais déjà abordé ou...
Jamais.
Jamais?
Ouais.
Ça te fait peur?
Non, pas du tout. J'adore. Je trouve ça trop bien. C'est hyper excitant, je trouve, de, justement, c'est un peu comme des cases, en fait, sauf que c'est une page, une case, quoi.
Okay.
Du coup, je suis plus à l'aise sur ce truc-là parce que ça fait plus longtemps que je fais de l'illustration, d'affiches, de choses comme ça. Et du coup, là, je m'éclate bien là-dessus.
Ok, parfait. Il y a d'autres projets qui vont venir après, plus ou moins long terme. Ah,
c'est à l'état d'embryon pour l'instant, donc je peux pas trop en parler encore, okay. Mais il y a des projets qui sont en cours, notamment un peut-être avec Tony.
Ok.
Donc, mais je peux pas trop en parler pour l'instant parce qu'il est pas trop avancé.
Alors Tony qu'on recevra très probablement dans 15 jours pour qu'il puisse venir nous parler de sa double sortie, Paria et le dernier tome de Papy Génial.
Yes.
Donc voilà.
Ah, il fait plein de trucs.
Oui, il n'arrête pas. Mais tant mieux, parce que ça nous permet de nous parler de trucs sympas.
Yes.
Est-ce qu'il y a on parlait tout à l'heure d'éventuellement travailler à plusieurs, toi au scénario, avec quelqu'un au dessin ou inversement. Il y a quelqu'un avec qui tu aimerais travailler? S'il y avait un bouton où tu dis, hop là, mon message sera forcément transmis.
Alors du coup, ouais, il y a Gaëtan Roussel, j'adorerais faire un truc avec lui.
Okay.
C'est une influence qui a toujours été chère à mon cœur, depuis Louise Attaque. Et j'adorerais faire un projet avec lui. Alors je sais pas quoi.
Projet BD musique, je pense que c'est
un projet BD
musique,
faire un truc sympa, ouais. Voilà, j'ai déjà envoyé quelques mails, hein, mais j'ai pas eu de réponse pour l'instant.
Donc bah écoute, Gaëtan, si tu nous écoutes, je sais que...
Fait que ça, en fait. Bah évidemment, évidemment,
clairement.
Le message est lancé. J'aimerais tellement avoir autant d'influence que ça. Ce serait tellement bien. Ok. Je propose qu'on parle d'une petite BD. Je vais commencer si tu me laisses la priorité, Fabien.
Mais avec plaisir.
On va parler d'un monstre gentil. Et je parle de celui de la BD, pas forcément de son auteur. Si vous connaissez pas, ça s'appelle Le Monstre au Violon. C'est publié aux éditions de La Gouttière. C'est de Richard Petitsigne et Olivier Supiot. Deux personnes complètement adorables. Qui nous publient un album plutôt pour les petits, et c'est un album sans paroles, un album avec de la musique. T'as vu comment je sélectionne bien les,
super, bien joué.
Les genres? Pourquoi c'est un album avec de la musique? Déjà, à la base, c'est un spectacle dessiné et créé par Olivier Supiot et Richard Petitsigne, et on y suit les aventures d'un jeune monstre qui va rencontrer une humaine, et cette humaine va lui donner un violon. Et il va découvrir la musique grâce à ce violon. Alors bien entendu, le violon étant l'instrument le plus simple à jouer, c'est au départ une cacophonie, mais il aime bien ça. Et sa famille voit ça d'un très mauvais œil. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que le but c'est de pouvoir la découvrir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet album-là, on peut l'écouter avec, j'ai perdu le nom de la symphonie de... tiens, redonne-le-moi s'il te plaît. Hop. En fait, à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, vous avez un QR code qui vous permet d'aller récupérer la symphonie numéro 4 de Mendelssohn et que vous pouvez écouter en fond en lisant l'ouvrage. Et je vous invite vraiment à le faire parce que déjà, ça a été créé pour... Attends, parce que Fabien, il est en train de baver là-bas, il a pas eu le bouquin. Parce que ça a été créé pour et que vraiment, on a une ambiance différente qui va se générer. Ce morceau de Mendelssohn est très gai, très enjoué et ça envoie vraiment beaucoup. C'est vraiment très très cool à écouter. Donc moi, j'adore. Alors, en plus, le dessin d'Olivier Supiot est toujours aussi fabuleux. On a l'impression, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, que c'est des formes très simples, très naïves, sauf que c'est bien travaillé. On est sur des monstres qui sont tout petits, mais qui sont sur des... C'est des monstres formes, en fait, presque, qui vont nous... On sait tout de suite à quoi s'attendre avec ces monstres-là. Et puis, le travail d'Olivier sur les couleurs fait que ça flash énormément. Et si un jour, vous avez l'occasion de voir une expo qui montre des planches d'Olivier Supiot, allez-y. Parce que... on a discuté avec d'autres personnes. Les albums mettent une couche un peu terne sur ces couleurs. Ouais. Ils travaillent en couleurs directes et même si ça flash dans les bouquins, les planches, elles sont fabuleuses. Quoi.
En vrai, ouais, c'est incroyable.
Donc voilà. Moi, c'est un gros kiff. Donc Florence, t'as regardé tout à l'heure les planches ? T'as regardé un peu ?
Oui, j'ai regardé, oui.
T'en penses
oui.
quoi ?
Bah, c'est très mignon, je trouve.
C'est tout kawaii, c'est tout mignon. Fabien ?
Oui, bah pareil, je trouve ça très chouette. Et comme tu disais, les personnages, ils sont a priori simples, les monstres, mais on voit tout de suite les émotions, en fait. Et donc, on sait exactement, on comprend tout de suite rien qu'avec les images. D'ailleurs, ce qui est important, parce que vu qu'il n'y a pas de texte,
c'est le but,
c'est
ouais.
plutôt pas mal. Mais du coup, ouais, ça marche bien. Et comme tu disais, le fait d'avoir mis une musique de fond, ça doit être assez cool comme expérience. Moi, je connais pas mal de personnes qui lisent en écoutant de la musique. Moi, je sais que je n'y arrive pas. Je suis monocentré. J'arrive pas à faire ça, parce que ça me sort de ma lecture. Mais du coup, pour les personnes qui aiment ça, et en plus, là, c'est à destination plutôt des enfants, forcément, au départ, ça doit être sympa de leur faire découvrir ce style de musique-là, en plus, de la musique classique, sur une BD de monstres. Je pense que ça peut bien marcher, et puis amener un côté très ludique.
Je trouve que ça marche très bien. J'ai vu quelqu'un avec qui on a discuté, qui l'a lu sans la musique et qui, désolé, hein, je donnerai pas le nom, mais qui l'a trouvé un peu fade. Alors qu'en fait, la musique, elle envoie vraiment beaucoup et c'est une musique qui est vraiment très joyeuse, qui pousse vraiment et qui marche vraiment trop bien. En même temps, c'est fait exprès, c'était fait avec, donc.
C'est ça.
Oui, c'est pour ça qu'on peut pas dissocier, je pense, les deux du fait que l'auteur là, il a vraiment voulu mettre ça en avant, les deux choses ensemble. Donc ça doit. En effet, peut-être paraître plus fade si on fait l'un sans l'autre. Et à mon avis, les deux ensemble, par contre, ça doit être une belle expérience.
Ça marche très bien. Tu l'avais déjà lu, Simon ?
Non, pas du tout. J'ai vu la couverture passer sur les réseaux, mais ça m'a donné bien envie, mais je ne l'avais pas feuilleté encore.
Ah, c'est vraiment très, très bien. Bah, moi, après, je ne suis pas à convaincre Olivier et Richard. Font un boulot de dingue. Si vous avez l'occasion, d'ailleurs, d'aller voir un spectacle dessiné d'Olivier et Richard, ils font souvent ça dans différents festivals ou même en dehors des festivals. Ça vaut vraiment le coup. Emmenez vos enfants voir ça. Ils ressortiront avec des yeux ronds comme des assiettes parce que c'est trop beau et c'est super agréable à voir. Donc, je redonne les infos. Le Monstre au violon de Richard Petitsigne et Olivier Supiot, c'est publié aux éditions de La Gouttière. Ça coûte 13,70€ et on a 48 pages. Voilà, c'est vraiment c'est un investissement qu'il faut faire. Enfin, selon moi. Fabien, de quoi tu nous parles ce soir ?
Ah, de quoi je vous parle ce soir ? Alors, ce soir, je vais vous parler d'un manoir. Alors,
mais
qu'est-ce donc un manhwa ? Alors le manhwa, c'est l'équivalent du manga, mais en version coréenne, tout simplement, okay. Donc, ou de la BD en version coréenne. Donc ce soir, je vais vous parler de nanomachines. Alors petite particularité aussi du manhwa, c'est dans notre sens de lecture à nous, contrairement au manga, et c'est en couleur. Et
Full couleur
et dans 100% des cas, je crois, en numérique. Je n'aime plus que de toute façon, la base du manhwa, c'est les webtoons. Donc là, c'est issu d'un webtoon, donc c'est-à-dire que ça vient d'Internet. À la base, c'est du numérique. pour ceux qui savent pas, le webtoon, on scrolle dans le sens vertical. Et donc, on défile.
Ouais, on déroule,
en fait. On fait vraiment du scroll. Donc là, on va être sur Nano Machine. Donc, Nano Machine, c'est chez Pika, dans la collection Wavetoon. C'est paru, du coup, en Corée en 2020. Il y a 262 chapitres en cours. En France, côté Webtoon, donc dans la plateforme numérique, c'est paru en 2022 avec 253 chapitres en cours. Et nous avons le premier tome qui est donc arrivé chez Pika là, le 3 septembre dernier. Et donc, un tome en cours. On a 304 pages pour 14,95€. Au dessin, on a GGBG. Alors, je vais pas, entre parenthèses, j'ai mis le nom de la personne parce qu'il met les initiales, mais je vais pas le dire parce que c'est trop compliqué. Je vais m'abstreindre parce que là, je vais écorcher le nom.
On voudrait pas dire un gros mot.
Exactement. Et au scénario, pareil, il a un pseudo, donc ce sera plus simple, c'est Grit H.
Ok.
Parce que derrière, ce sont des noms que je ne sais pas prononcer, là, pour le coup. Clairement. Donc, du coup, on est sur un type, on va dire, action-aventure fantasy avec un peu d'historique. Donc, un petit panel assez large. Donc on va être en gros sur ce qu'on appelle un Mourin. Un Mourin, donc c'est à l'époque médiévale avec les arts martiaux.
Ok.
Donc de quoi ça parle exactement? Donc en fait c'est Cheun Yeun, qui est le fils illégitime du chef suprême du culte démoniaque, qui était renié à cause de ses origines, puisque en fait sa mère était une servante. Et les six grandes sectes de ce culte lui interdisent d'apprendre les arts martiaux et de cultiver son ki, son énergie interne. Alors qu'une escouade de la secte maléfique est sur le point d'assassiner Cheun Yeun, un homme étrange apparaît dans une lumière bleue et en jogging, assez étrange pour l'époque, ouais. Et le sauve. Prétendant être son descendant, il lui injecte une mystérieuse technologie appelée nanomachine. Il disparaît, et suite à cet événement, le corps de Cheun Yeun n'est plus le même. Cette nouvelle chance lui suffira-t-elle pour se faire une place à l'académie démoniaque ?
Mystère.
Clairement, j'avoue que j'ai été un peu intrigué par le titre, hein, en voyant la couverture et le titre. Parce qu'on voit un personnage du folklore médiéval avec comme titre Nanomachine. Ça m'a laissé un peu perplexe. J'ai dit, oula, mélange des genres, qu'est-ce que ça va donner? J'avais un peu d'appréhension, j'avoue, au début de ma lecture. Et d'ailleurs, les toutes premières pages, quand on voit ce personnage principal qui se fait injecter donc les nanomachines par son descendant, qui lui arrive dans un halo un peu bleu, en jogging et tout, je me suis dit, oh, ça fait bizarre, vers où ça va aller et tout ça. Eh ben, je me suis trompé, parce que après les autres pages, on oublie quasiment le côté SF. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment là dans le côté médiéval coréen. On est dans la vie de tous les jours. La seule particularité, c'est que, bah, il a ses nanomachines dans son corps, donc il va falloir qu'il apprenne à vivre avec ça. Ça va lui forcément lui amener des pouvoirs, des choses particulières. Mais on n'a rien de plus au niveau science-fiction et décalage de temporalité. Et, pour le coup, moi qui aime bien un peu tout ce qui est arts martiaux, tout ce qui est un peu combat et tout, j'ai trouvé que c'était bien amené. On va pas se mentir, hein, le scénario n'a rien de très original. On se retrouve dans un schéma assez classique du jeune héros sans pouvoir, malmené dans la vie, qui va devoir se surpasser pour survivre. Clairement, ça commence comme ça, et dès le départ, il va très vite rentrer à l'académie, où forcément, il va y avoir des épreuves, il va devoir survivre par rapport à ses autres demi-frères qui veulent tous qu'il meure, puisqu'il a rien à faire là, étant donné qu'il est ici d'une bâtarde, entre guillemets. Et on a des belles scènes d'action, le trait du dessin, il est dynamique. On sent qu'il a vraiment été taillé pour l'action, ça marche bien. Les scènes de combat explosent et la colorisation est bien maîtrisée, ce qui fait que on en prend quand même plein les yeux. J'ai trouvé ça très très sympa. J'ai hâte de découvrir la suite, parce que la première épreuve, finalement, c'est pas vraiment du combat. Je vais pas en dire plus que ça. Mais ça donne envie de voir où il peut aller, parce qu'on se rend compte qu'avec les nanomachines, il va devenir, je pense, très rapidement puissant. C'est ma petite crainte quand même. J'ai peur que ça lui amène une puissance très rapidement haute, vraiment très élevée, et que bah pour le coup on se retrouve à avoir
du plus
comme on peut avoir des fois dans certains mangas aussi. À voir ce que ça va donner. On peut voir déjà quelques protagonistes bien badass, des personnages avec du charisme où tu te dis ouais, ceux-là on a envie de voir ce que ça donne, ceux qui tiennent un peu tout le truc. Donc premier tome vraiment entraînant qui donne envie de lire la suite. Donc j'ai hâte de voir le deuxième qui devrait paraître normalement le 3 décembre prochain.
Et ben on aura sans doute l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Hein.
Exactement. Donc je vais redonner les petites références. Donc c'est Nanomachine, donc aux éditions Pika. Ça fait 304 pages pour 14,95€. Au dessin on a GGBG et au scénario Grit H.
Eh ben parfait. Simon, j'ai oublié de te poser une question parce que c'est aussi intéressant pour les auditeurs. Où est-ce qu'on peut te suivre, réseaux sociaux, sites, internet?
Oui, Instagram, surtout.
Adresse maison, non.
Peut-être ça pas. La garder pour moi.
Pour les stalkers seulement ça.
Ouais, c'est ça. On va la trouver vous-même. Instagram, du coup, ouais, simon.vergnol, et sur internet, simonvergnol.com.
Ok, aussi simplement que ça.
C'est ça.
Pas de Facebook, pas de...
Je suis sur Facebook aussi.
Ok.
Je l'utilise un peu moins, mais j'y suis. Et j'ai aussi un nom d'artiste qui est Mogsart, où je dessine des chats.
Mogsart, ok.
M-O-G-S-A-R-T.
Ok. Sur un ArtStation ou c'est...
C'est sur Instagram aussi.
Instagram aussi.
Voilà.
Ok. Bon bah, allez-y, allez voir son travail, c'est très cool à faire. Hein.
Je vous attends.
Abonnez-vous. Je vous propose une nouvelle pause musicale. On va écouter un autre morceau de Cher Hubert. Le morceau s'appelle Allumette. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Bien, je finis par trouver, mais le résultat n'est pas ce que je cherchais. Des questions sans réponse ornent mon palier et ma boîte crânienne à craquer. Une allumette pour y voir un peu mieux. Une allumette pour y mettre le feu. Sans marcher, essayer de comprendre, tout reprendre à zéro, retenter sa chance en soufflant sur les braises en toutes circonstances. Une allumette pour y voir un peu mieux.
www.radio-g.fr.
Allez, on est de retour dans la case de Seb. On vient d'écouter Cher Hubert Allumette. C'est Simon Vergnol, auteur, compositeur, interprète.
Et ben celle-ci, elle a été composée. Il y a Clara qui fait les chœurs, du coup, encore.
Okay.
Et il y a un ami qui fait tout ce qui est clavier, batterie derrière, qui s'appelle Wilfried.
Trop bien.
Et avec qui on a travaillé pendant un an sur plusieurs chansons, dont un EP qui est sorti sur Spotify il y a 3 ans.
Trop bien. Tu multiplies en plus les cordes à ton arc, parce que j'imagine que c'est toi qui as fait la jaquette de l'album.
Bah, je m'amuse, oui. Du coup,
c'est toi qui as fait.
Tout à fait, ouais.
Parfait. On parlait pendant la pause des différents types de BD que tu pouvais lire. Tu me dis que t'étais plutôt ouvert à peu près à tout, à partir du moment où c'était plutôt dense et fourni, en type roman graphique.
Ouais, j'aime bien quand il y a beaucoup de pages.
Ok. Tu t'y connais un peu en BD américaine ou pas?
Pas du tout.
Ok. Bon, je te donne Batman.
Batman, ça va.
Voilà. Les origines de Batman autour de la table, c'est quoi les grandes caractéristiques de Batman?
Milliardaire.
Milliardaire.
Héros caché.
Héros caché.
Noir.
Noir, orphelin. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Sans pouvoir.
Sans pouvoir et qui tue pas.
Exactement.
Eh ben, on va pas parler de ça. si vous avez suivi l'émission, on a parlé de l'univers Absolute avec Absolute Superman il y a pas très longtemps. Là, je vais vous parler du coup d'Absolute Batman. Le tome 1 est disponible aux éditions Urban Comics. Il est de Scott Snyder et Nick Dragotta. Je vais le faire passer, comme ça vous allez pouvoir le regarder.
Merci.
L'univers Absolute, c'est un petit peu l'univers Ultimate de Marvel, un univers avec des héros qui sont des outcasts, j'ai plus le terme exact. Ils sont là pour relancer un petit peu. Ils sont jeunes, ils sont frais, ils sont avec des idées bien arrêtées sur le monde. Et là, on va découvrir un Batman qui n'est pas orphelin. Déjà, première nouvelle, qui n'est pas milliardaire, deuxième nouvelle, mais qui est quand même toujours hyper intelligent. Et en fait, là, il vient plutôt de classe sociale plus basse. Son père a été tué lors d'une sortie scolaire qui l'accompagnait. Sa mère est travailleuse sociale. Et le jeune Bruce Wayne, en fait, va faire des études d'ingénierie pour pouvoir travailler, gagner un petit peu d'argent. Il ne deviendra jamais ultra riche. Mais au fur et à mesure du temps, il a quand même décidé de devenir un personnage vengeur. Et il a surtout bien réparti ses cartes. Puisque travaillant dans l'ingénierie, il a eu accès à des bâtiments dans lesquels il a pu mettre des choses en place et placer des pions pour pouvoir lutter contre le crime sur place. D'un autre point très différent des Batman qu'on peut connaître, c'est le design du Batman. Batman, on le voit souvent assez élancé, musclé, mais là, c'est un monstre de musculature. Il est pas subtil du tout. Un design de costume qui est très bien pensé, puisqu'en fait, ses ailes de chauve-souris sont une espèce de mélange de tubes qui vont pouvoir à la fois servir de grappin, servir pour frapper, un peu à la manière de Nunchaku. Il a une plaque pectorale qui peut servir de bouclier, qui peut servir de hache. Vraiment, on est sur du ultra fonctionnel. Là où il avait beaucoup de gadgets, là on est sur des gadgets très terre à terre. Je dirais même presque les réactions scientifiques que vous pouvez faire à l'école, au collège, en cours de SVT, lui va les appliquer à grande échelle. Il va pouvoir geler des trucs en utilisant des composés qu'on pourrait trouver n'importe où. Et bien sûr, très peu de subtilité. Le but, c'est qu'il ne se fasse pas choper, mais il y a vraiment très peu de subtilité. Comme on renouvelle un peu le genre, Alfred n'est pas son majordome, mais c'est un agent du MI je sais pas combien qui n'aime pas du tout Gotham et qui vient à la rencontre de ce héros qui se cache. Donc les relations sont pas très très cordiales au départ, mais il finit par se rendre compte que ce jeune héros est plutôt... il a un certain sens de la justice. Pas de la subtilité, mais de la justice. Le commissaire Gordon n'est plus tout à fait commissaire, je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça. Et en fait, il y a plein de nouveautés. Et une des grosses nouveautés, c'est que la majeure partie des super-vilains qu'on connaît, le pingouin, le mystère, Bane... non, pas Bane, pardon, mais Catwoman, par exemple, sont plutôt des amis d'enfance de Bruce Wayne et ils jouent aux cartes ensemble. Donc il y a plein de choses qui vont bousculer les codes tels que vous les connaissez de l'univers de Batman. Et si vous connaissez pas Batman, c'est une plongée dans un nouveau personnage qui va peut-être vous permettre de le découvrir sous un autre jour. En plus, le dessin, il est franchement terrible. Il est très actif, beaucoup d'action. Toujours très sombre. Hein. Par contre, on reste dans du Batman. Hein. Le jour où on aura un Batman en plein jour, sera moins... Mais là, on a vraiment mis en avant dans cet album-là, la ville, puisque Batman va beaucoup jouer avec différents éléments de la ville, plutôt qu'un seul QG, pour pouvoir lutter contre le crime.
Et tous ces changements-là dont tu dis, est-ce que finalement ça fonctionne ou pas? Parce que ça casse quand même tous les codes du Batman. Là. C'est presque plus Batman, au final.
C'est presque plus Batman, mais on compense en fait le manque de finances par de l'ingéniosité. On a toujours ce code moral qui va quand même tenir, même s'il est un peu plus bourrin. Alors, ça va rejoindre certains récits qu'on a pu avoir avec des What If, par exemple. Enfin, What If, c'est Marvel, mais voilà, il y a des expérimentations sur les personnages, et ça marche. Et c'est hyper intéressant à voir, justement, d'avoir un personnage qui est réinterprété d'une autre manière, d'une manière assez moderne, avec peut-être des ouvertures sur d'autres choses, puisque l'univers Absolute, c'est un univers qui fait partie de la continuité globale en fait des univers DC, puisque DC ne sait pas faire des univers complètement isolés, à part, il y a forcément des liens partout.
Ok.
Tu l'as eu dans les mains tout à l'heure?
Ouais.
T'en as pensé quoi, Simon?
Eh ben, ça donne envie de découvrir, c'est chouette cette idée de redistribuer les cartes comme ça et de voir où ça va, quoi. Ça donne bien envie. C'est bien dynamique, ça a l'air d'être bien quand même bourrin. C'est pas du tout ce que je lis, mais ça me donne envie, quoi.
Ah bah, faut découvrir. Je pense que c'est des moyens d'entrer dans les univers DC si on ne les connaît pas. Il y a trois albums. J'essaierai sans doute de parler du troisième, puisqu'on avait Superman, on a Batman, et ils ont fait un autre avec Wonder Woman.
Ok.
Donc voilà. Flo, t'en penses quoi?
Moi, j'adore l'univers urbain. Donc là, au niveau des dessins, les immeubles, les grandes rues, je trouve ça vraiment très bien fait. Ouais, ça me donne envie de le lire.
Eh ben, écoute, on pourra en parler. Petite mention spéciale, si jamais vous y allez, la Batmobile qu'ils ont fait. Et voilà. Encore une fois, sans aucune subtilité. Je redonne les références. Absolute Batman, c'est le tome 1. Ça s'appelle le Zoho. C'est sorti au mois de mai de cette année. C'est 184 pages pour 20,50 €. Et c'est de Scott Snyder et Nick Dragotta. Voilà, voilà. Allez, on va rester dans les univers. Je fais un petit dernier rapide que j'aurais dû faire au début pour les enfants. Est-ce que vous connaissez un super-héros Marvel qui s'appelle Jeff?
Non. Non plus.
Non.
Eh bien, c'est normal, moi non plus, je ne le connaissais pas, puisque Jeff est un requin terrestre. C'est un petit requin, alors qui a été créé par MODOK, qu'on peut voir dans les films. C'est une espèce de gros cerveau intelligent. Il a voulu faire une invasion de Manhattan avec des requins terrestres. Et en fait, Jeff s'est perdu de sa meute et a été recueilli par Kate Bishop, la nouvelle Hawkeye, donc l'archer. Et en fait, on suit les aventures, je vous le fais passer, de ce petit Jeff qui est tout mignon, tout petit, et qui fait plein de bourdes en compagnie de tout un tas de super-héros. C'est une BD à sketch, plutôt destinée aux enfants. Voilà, c'est, je vois pas quoi dire de plus, c'est très mignon. Je savais pas trop à quoi penser de ça, parce que au départ voilà, on me parle d'un requin terrestre, déjà je sais pas qui c'était, donc j'ai été chercher d'où ça venait, et en fait c'est plein de vannes. Le perso, il est trop mignon, vraiment très kawaii. Il, à la manière d'un chien ou d'un chat, il va faire des bourdes, mais il les travaille un petit peu plus. Et à un moment, je vous raconte une des vannes, mais il veut faire de la luge sur la neige. Donc il casse sa luge. C'est une espèce de petite luge ronde classique, façon couvercle de poubelle américaine là. Et bah il se dit, bah je vais prendre un truc qui est un peu plus résistant. Donc il pique le bouclier de Captain America pour faire de la luge dessus, et Captain America se retrouve avec un couvercle de poubelle pété. Voilà, c'est ce genre de vanne. C'est terriblement mignon. C'est pas de la vanne ultra fabuleuse, mais c'est des vannes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Ça marche bien. Je pense que c'est dessiné en full numérique. Simon, tu confirmes?
On dirait, oui.
Mais ça marche bien, les couleurs sont bien travaillées, les persos sont cool. Pour les fans de Où est Charlie, vous pouvez vous amuser en fait au fur et à mesure des pages et sur certaines scènes à chercher votre super-héros préféré, qui sera certainement dans la page. Mais c'est très très drôle.
Voilà. Du coup, c'est sans texte,
aussi.
Oui, pas tout à fait.
Ah non, là, fin, on a... il suffit que je dise voilà. Ça pour tomber sur une page avec une bulle.
Il y a très peu de texte quand même, mais c'est vraiment très très cool à lire.
Et il est mignon, mais il a l'air de se transformer aussi un petit peu.
Ouais. Oui, il y a. Alors en fait, ce qu'il faut savoir.
Il y a version Venom, non?
Ouais, mais c'est tout à fait ça.
Pas que je dise, mais j'étais pas tombé dessus.
Tu racontes les blagues.
Mais j'ai pas fait exprès.
Non, non, mais en fait, à la base, ce sont des petites histoires qu'on pouvait retrouver dans certains comics. Et il y a eu tout un arc, en fait, avec la vénomisation. De plein de créatures, alors on va pas rentrer dans les détails, et il a eu le droit d'être vénomisé, et ça le rend peut-être même encore plus mignon que d'habitude.
Et du coup, donc, de ce que je vois, pas d'histoire générale, c'est plein de mini-sketchs,
ouais,
en fait.
C'est des mini-sketchs.
Un peu à la Boule et Bill, ouais. Ou des trucs comme ça, on a vraiment sur.
Il y a que le petit arc Venom à la fin où, effectivement, on est un peu plus sur la durée, il y a un peu plus de pages pour cette histoire-là.
Okay.
Mais rien d'énormissime non plus. Voilà, je redonne les refs, c'est Jeff, et voici Jeff, le Jeff-verse, c'est publié chez Panini Comics, ça coûte 13,99€, et on a 128 pages, et tu peux redonner juste le nom des auteurs que tu dois avoir quelque part par là, que j'ai perdu. Oui, alors il s'appelle Gurugiri, je crois, je vais y arriver. Promis. Vous voyez les aléas du direct. Le dessin, c'est de Guri Hiru et le scénario de Kelly Thompson. Et allez-y vraiment, mais même juste sur la page où il est déguisé en plein de persos, c'est juste fabuleux. Très très bien si vous voulez faire découvrir les univers Marvel à des enfants. Voili voilou, je suis perdu dans mes jingles. Tac, on est lundi, les cases de Seb. C'est pour qui est là. That's all, folks. Oh là là, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission.
Ouais, il était parti se cacher et il a mis du temps à sortir.
C'est clair. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Simon, merci d'être venu nous parler de cette soirée de vendredi à la Bulle. Ça commence à quelle heure?
À 20h.
À 20h pile.
20h pile.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit. Il faut réserver. Par mail ou au téléphone.
Directement sur le site de la Bulle.
C'est ça.
Ok. Parfait. Merci Fabien.
Eh ben, je t'en prie, merci à toi.
Merci Florence.
Merci à tous.
Merci à vous chers auditeurs. Et n'oubliez pas de... On se retrouve dans 15 jours et n'oubliez pas de lire en attendant. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire, ben, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, la petite ch'touf.
Batman. Trop vite. Tu n'es pas chez toi ici.
Justement, les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi. To how it was.